hommage au grand rabbin Ernest Gainsburger, 1876-1943. Grand rabbin de Genève, puis grand rabbin de Belgique, Ernest Gainsburger sera rabbin de Bayonne de 1930 à 1943. Figure singulière, Ernest Gainsburger est un homme d'action, prédicateur apprécié, historien, juriste, journaliste, conférencier. Il a laissé une abondante littérature et ses ouvrages d'histoire sur les Juifs du Sud-Ouest font toujours autorité. Homme engagé, résistant, il est mort à Auschwitz le 11 février 1943, victime de la barbarie nazie et du régime de Vichy. Un hommage lui a été rendu par la ville de Bayonne au Musée Basque de l'Histoire de Bayonne le 7 mars 2018 à l'occasion du 75e anniversaire de sa mort et à l'occasion de la publication de son manuscrit inédit « Les Juifs de Bayonne, des origines à la Révolution française », manuscrit publié par les éditions Atlantica, précédé de l'hommage d'Anne Oukemanou intitulé « Ernest Gainsburger, un homme ardent et engagé ». Bienvenue à toutes et à tous. Cet hommage au grand rabbin Ernest Gainsburger sera retransmis sur notre antenne en quatre parties. Aujourd'hui, vous entendrez le mot d'accueil de Sophie Castel, adjointe au maire de Bayonne, puis l'introduction d'Anne Oukemanou et l'intervention de Georges Veil, ancien conservateur de la bibliothèque et des archives de l'Alliance israélite universelle, ancien président de la Société des études juives. Nous commençons par l'intervention de l'adjointe au maire de Bayonne, Sophie Castel.
Écoutez, je suis très heureuse d'être là ce matin. Donc, je suis Sophie Castel, je suis adjointe au patrimoine à la ville de Bayonne. Et donc, je vous prie de bien vouloir excuser l'absence de monsieur le maire, donc qui était retenu par d'autres obligations ce matin. Mais je m'en trouve fort aise puisque c'est moi aujourd'hui qui effectivement ai l'honneur d'être à vos côtés Anne, à vos côtés messieurs, pour pouvoir effectivement prendre connaissance, parce que c'est vrai que depuis que j'ai rencontré Anne et Bernard Gainsburger, j'ai fait connaissance avec Ernest Gainsburger. Tous les jours nous apprenons et je crois que ce matin, nous allons tous pouvoir découvrir, redécouvrir, peut-être pour certains, le parcours absolument extraordinaire de Ernest Gainsburger, qui a été grand rabbin de Bayonne de 1930 à 1943. Voilà, donc je ne suis pas là pour que vous m'écoutiez. Le plus important, c'est effectivement, je laisse la parole à Anne et surtout, très belle matinée à vous tous.
Voici l'introduction à ce colloque hommage au rabbin Gainsburger. Anne Oukemanou, docteur en histoire qui s'intéresse depuis plusieurs années aux Juifs de Bayonne, de sa région et en particulier au XIXe siècle, Anne Oukemanou a publié aux éditions Atlantica le texte inédit d'Ernest Gainsburger, Les Juifs de Bayonne, des origines à la Révolution française, publication qu'elle a fait précéder d'une biographie introductive intitulée Ernest Gainsburger, un homme ardent et engagé. Anne Oukemanou.
Rebonjour, mesdames, messieurs. Avant toute chose, je remercie monsieur Jean-Claude Laronde, président du syndicat mixte du Musée Basque et de l'Histoire de Bayonne, et Raphaël Zulaika, le directeur du Musée Basque, de nous accueillir dans cette salle Arguitou, salle de transmission, s'il en est. Je remercie aussi Anne-Marie Gallet et Christian Harald, le caméraman. Donc ce colloque autour du parcours personnel et rabbinique d'Ernest Gainsbourger est l'un des temps forts de l'hommage rendu par la mairie de Bayonne au grand rabbin à l'occasion du 75e anniversaire de sa mort à Auschwitz en février 43 et à l'occasion de la publication de son manuscrit inédit « Les Juifs de Bayonne, des origines à la Révolution française ». Mais avant de commencer d'aborder vraiment son parcours rabbinique avec Monsieur Veil, Monsieur Plançon, Monsieur Schreiber, Monsieur Philippe Gainsbourger, je voudrais vous proposer une brève biographie parce que, comme l'a dit Sophie Castel, Ernest Gainsbourger, à part la rue à Bayonne et son portrait tout à fait officiel dans la salle consistoriale au temple de la rue Maubec, il est peu connu. Donc, il est né en 1876 à Héricourt, en Haute-Saône, où son père était marchand de bestiaux. Son père avait choisi en 1872 de la France et donc s'était installé à Héricourt. Ernest Gainsbourger rentre en 1889 au Talmud Torah à Paris, puis poursuit à partir de 1894 des études au séminaire israélite de la rue Vauquelin à Paris. En 1900, il quitte le séminaire israélite bardé de son tout nouveau certificat d'aptitude au grade de rabbin. De 1900 à 1908, il est directeur de l'enseignement religieux au consistoire de Paris. Après plusieurs tentatives infructueuses au poste de rabbin communal dans quelques villes de province, il arrive à Genève. En 1919, après avoir été aumônier israélite pendant la Grande Guerre, il obtient le grade de grand rabbin. En 1924, il quitte Genève pour Bruxelles, où il devient grand rabbin de Belgique jusqu'en 1929. C'est donc un grand rabbin expérimenté qui arrive à Bayonne en 1930. Investi, résistant à l'occupation allemande, il est arrêté à son domicile le 28 février 1942. Emprisonné à Maison-Blanche, à Biarritz, Maison-Blanche est une prison allemande qui se trouve rue Dominique Morin, tout à côté du jardin public, à Biarritz. Puis interné début mars au camp de Royal-Lieu-Compiègne, Franz-Talaig 122, jusqu'au 9 février 1943. Le 10 février, il est au camp de Drancy et déporté le lendemain avec le convoi numéro 47 pour Auschwitz, où il est gazé dès son arrivée, le 16 février 1943. Mais il est sûr que cette chronologie, que je voulais quand même brève, c'était simplement quelques étapes. Hein, pour le reste, j'ai consacré de nombreuses pages à la biographie d'Ernest Gainsbourger, donc je vous invite à la lire. Et cette chronologie ne donne pas la mesure des héritages ni des difficultés qu'il a rencontrées. Après ce préambule, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui M. Georges Veil, né à Strasbourg, et cette précision a du sens, archiviste paléographe, conservateur général du patrimoine, ancien conservateur de la bibliothèque de l'Alliance israélite universelle, membre fondateur de la commission des archives juives et président d'honneur de la Société des études juives. Il a publié, vous vous en doutez, de nombreux travaux sur l'histoire des Juifs de France, sur l'Alliance israélite universelle et très récemment un article sur Bernard Lazare et le renouveau des études juives. Jean Plançon, lui, est né à Besançon, il habite aujourd'hui Genève, Besançon, pas si loin d'Héricourt en fin de compte, un franc-comtois aussi, et a fait dans une première vie une carrière dans la marine nationale. Dans sa seconde vie, il prend en charge le département des cimetières de la communauté israélite de Genève et s'intéresse à l'histoire de cette communauté. Et il entre, et à la suite de Gainsbourger, il publie deux volumes, Histoire de la communauté juive de Carouge et de Genève, et il semble qu'il y a un troisième volume en préparation. Je regrette l'absence de Jean-Philippe Schreiber, historien belge qui, pour des raisons familiales, ne peut pas être avec nous aujourd'hui. Et il est professeur, mais nous aurons, Il nous a envoyé une vidéo de son intervention. Et il est professeur à l'Université libre de Bruxelles. Et les travaux de Schreiber portent sur l'histoire du judaïsme moderne et contemporain, sur l'histoire de l'immigration. Il est l'auteur du dictionnaire biographique des Juifs de Belgique et de Politique et religion, le consistoire central israélite de Belgique au XIXe siècle. Enfin, Philippe Gainsburger, fils du grand rabbin Ernest Gainsburger, qui nous livrera ses témoignages. Les présentations étant faites, nous allons commencer notre matinée avec M. Veil. Ernest Gainsburger est d'origine alsacienne. Comme je vous le disais, son père ayant choisi la France en 1872. Mais une partie de sa famille, ses grands-parents, son oncle et surtout son cousin Moïse Gainsburger sont restés en Alsace. Et donc M. Veil se propose de comparer les parcours de ces deux figures intellectuelles qui ont été Ernest Gainsburger et Moïse Gainsburger. Monsieur Veil.
Après cette introduction d'Anne Oukemanou, nous écoutons Georges Veil, ancien conservateur de la Bibliothèque et des Archives de l'Alliance israélite universelle, ancien président de la Société des études juives. Le thème de son intervention, des Juifs d'Alsace, deux figures intellectuelles, Moïse et Ernest Gainsburger. Georges Veil.
Je voudrais dire d'abord que c'est un grand honneur pour moi de venir de participer à l'hommage qui est rendu par la ville de Bayonne à l'occasion de la publication de votre livre, chère madame, que j'ai découvert hier et qui m'a beaucoup impressionné. Je dois dire, il y a deux aspects du livre qui m'ont impressionné, outre d'ailleurs son volume, mais la qualité de son contenu. Alors, bien entendu, nous reparlerons peut-être tout à l'heure de l'histoire de Bayonne, des Juifs de Bayonne, qu'Ernest Gainsburger était en voie de terminer lorsqu'il a disparu. Mais aussi, j'ai été impressionné par la biographie que vous avez reconstituée au début de cet ouvrage. Et qui me coupe un peu l'herbe sous les pieds, je dois dire, parce que il y a des choses que j'aurais voulu dire. Bon, je les dirai quand même, bien sûr. Alors, je vous remercie beaucoup pour votre invitation. Je remercie aussi le maire de Bayonne de m'avoir invité. Et j'espère que vous ne serez pas déçus, puisque je parlerai de problèmes qui sont quelquefois loin du Pays basque et qui se rapprochent plus à la vie ancienne des Juifs d'avant la Révolution. Je voudrais quand même joindre à cet hommage au rabbin Gainsburger une pensée pour l'historien Gérard Nahon, comme vous l'avez fait hier. Il nous a quittés il y a 15 jours, et je voudrais le joindre surtout parce qu'il a été le rénovateur des études sur les Juifs de Bordeaux et de Bayonne. Il a été aussi, et on peut le considérer comme cela, comme le rénovateur des études séfarades françaises et même européennes. Il avait été caché, enfant caché dans le Béarn pendant la guerre, et à ce moment, il avait décidé de faire revivre cette histoire des Juifs espagnols qui fuient l'Inquisition par le Portugal et qui sont venus s'installer en France avec l'autorisation des différents souverains de la France et qui ont vécu jusqu'au début du 19e siècle, du 18e, pardon, cachés en pratiquant en secret le judaïsme. Après la guerre, Gérard Nahon est venu avec sa femme et ses enfants déchiffrer les épitaphes dans les cimetières, dans les différents cimetières où les Juifs portugais avaient résidé à partir du 16e siècle, et à Bayonne, à Bidache, à Peyrorade et à la Bastide de Clérance. Il est devenu ensuite ce grand spécialiste qui nous a quittés il y a 15 jours. Je rappelle juste qu'il a écrit quelques ouvrages importants qui feront date, comme d'ailleurs le vôtre, Monsieur Plançon. C'est un ouvrage qui fera date pour l'histoire des Juifs de Suisse et pour l'histoire des Juifs européens en général. Les nations juives portugaises du sud-ouest, métropole et périphérie séfarade d'Occident, et là il fait toute la Méditerranée, il embrasse toute la Méditerranée. Et enfin, un ouvrage qui a été couronné par l'Académie des inscriptions et des belles lettres, Les inscriptions hébraïques et juives de la France médiévale. Ces étudiants, et c'est extrêmement rare, c'est pourquoi je tiens à le souligner une fois de plus, ces étudiants ont gardé de lui le souvenir d'un professeur exceptionnel, et ce qui est quand même rare à la Sorbonne, il l'adorait. Ce n'est pas le cas de tous les professeurs, mais Gérard Naon avait le don de susciter une énorme sympathie. Il avait une vénération particulière pour le grand rabbin Ernest Ginsburger, et quelques jours avant sa mort, quand je lui ai téléphoné, il s'est inquiété du livre, il en avait vu le manuscrit avec vous, cher monsieur, et il m'a demandé de vos nouvelles, et il a été très heureux d'apprendre que ce manuscrit allait enfin être publié après de si longues années. Alors, de mon côté, il me revient d'évoquer l'histoire des Juifs d'Alsace sous l'Ancien Régime, donc avant la Révolution, à travers l'œuvre du cousin germain d'Ernest Ginsburger, Moïse Ginsburger. Il était resté très proche de sa famille et de Moïse Ginsburger, ils ont publié ensemble plusieurs ouvrages. C'est pourquoi je voudrais traiter d'abord de leurs origines familiales, car leur généalogie traverse l'histoire des Juifs d'Europe et n'est donc pas uniquement alsacienne. Ils furent néanmoins tous les deux, Ernest et Moïse, les héritiers d'une culture judéo-alsacienne qui remontait au Moyen-Âge et qu'eux-mêmes ont contribué, chacun de leur côté, à illustrer par leur exemple et à faire connaître par leurs travaux. Ce serait aussi l'occasion de rappeler les conditions difficiles décrites par Moïse Ginsburger dans ses travaux, les conditions dans lesquelles les Juifs ont vécu en Alsace avant la Révolution. C'étaient des conditions très différentes de celles des Juifs de Bayonne, telles qu'on peut désormais les trouver dans, évidemment, le précédent ouvrage de M. Léon, mais également dans celui qui vient d'être publié. En 1789, à la veille de la Révolution, les Juifs d'Alsace étaient la nation juive la plus peuplée de France et comptaient plus de 25 000 personnes. À la même époque, je voudrais rappeler qu'il y avait 5 000 Juifs à Metz et en Lorraine, 2400 à Bordeaux, 2600 à Saint-Esprit, ce que tout le monde sait, 600 Juifs à Paris, environ 2600 personnes dans ce qu'on appelait les états du pape et 300 juifs à Nice. Alors, les Bayonnais sont en plus très fiers et je les félicite de constater qu'en 1789, Bayonne avait dépassé Metz et comptait une communauté juive plus importante pour la raison d'ailleurs que les juifs messins, très à l'étroit dans les quartiers qui leur avaient été autorisés, quitter la ville et s'installer dans le pays messin. C'est pourquoi Bayonne était devenue à cette époque la ville de la plus grande, où la communauté juive était la plus importante. Et je voudrais préciser aussi qu'à cette époque, il n'y avait, selon les renseignements qui sont donnés par le dénombrement, 16 familles seulement portaient le nom de Ginsburger. Ce qui prouve que c'était l'élite quand même, puisqu'il y avait à l'époque 618 familles qui portaient le nom de Lévy, 196 le nom de Veil et 189 le nom de Bloch. Et bien sûr ensuite un certain nombre de familles, ce qui prouve l'interfamiliarité ou la façon dont il se trouve que où qu'il aille, un juif alsacien est à peu près certain de trouver un cousin éloigné. C'est d'ailleurs ce qui est arrivé ce matin à la table du déjeuner. Les familles qui portent le nom de Ginsburg ou Ginsburger ou Ginsburg, mais non pas, comme je l'ai vu écrit par erreur, Ginsburg comme le chansonnier, ce n'est pas la même origine. Sont originaires de cette petite ville de Bavière qui s'appelle Ginsburg. Le premier juif portant le nom de Ginsburger s'appelait d'ailleurs Simon, fils d'Eliezer, Ulmo. ce qui prouve qu'il n'était pas réellement de Günzburg, mais d'Ulm, une ville qui est située un peu plus au nord sur le Danube. Comme tous les habitants de la région, les Juifs d'Allemagne ont souffert des malheurs de la guerre de 30 ans qui a dévasté l'Allemagne et également l'Alsace, puisque l'Alsace faisait partie de l'Empire romain germanique. Et quelques années après le début de la guerre et les massacres qui ont suivi, les Juifs de Günzburg ont été expulsés de cette ville et ont cherché un autre abri. Alors Simon Ulmo est devenu un immigrant et, comme toutes les personnes à qui on demande d'où est-ce que tu viens, il a dit « Ich bin von Günzburg » et je m'appelle Günzburger, je suis de Günzburg, comme la plupart des noms alsaciens qui portent des noms de villes. L'Alsace venait d'être conquise par la France et il espérait sans doute bénéficier d'une existence moins dangereuse qu'en Allemagne, et sans rencontrer des difficultés de langue, puisque les Juifs d'Allemagne parlent le yiddish, qui est une langue germanique, proche de l'alsacien, bien sûr, qui en est aussi une langue germanique, mais avec beaucoup de mots hébreux. Ce qui fait que les Juifs allemands ou alsaciens comprennent parfaitement l'alsacien, mais les Allemands et les Alsaciens, qui ne sont pas juifs, ne comprennent pas le yiddish. J'ai mis beaucoup de temps à comprendre ceci, et quand j'étais enfant, j'ai essayé de parler le yiddish avec des petits camarades, et j'étais très vexé parce qu'ils ne le comprenaient pas, et eux, ils ne parlaient que l'alsacien. Ulmo voulait vérifier aussi si le proverbe allemand était exact, puisque selon ce proverbe, on vit glücklich wie Gott in Frankreich, heureux comme Dieu en France, ce proverbe que tout le monde connaît. En réalité, les Juifs ne furent pas aussi heureux en Alsace qu'ils l'avaient espéré. Et ils devaient subir en effet des contraintes religieuses, civiles, économiques. Ils ne furent pas admis dans la société paysanne ou citadine de l'Alsace, mais seulement tolérés en marge de cette société. Leur existence était jalonnée d'interdictions concernant à peu près tous les secteurs de la vie quotidienne, de la naissance jusqu'à la mort. Il régnait aussi en Alsace, il faut malheureusement le reconnaître, un antisémitisme populaire alimenté aussi bien par l'enseignement de l'Église catholique que par celui des pasteurs protestants. Alors, j'ai hésité à le dire, mais je crois qu'il faut absolument le rappeler, quelques extraits de cette réglementation que Louis XVI, d'ailleurs, contrairement à l'opinion, rendit encore plus sévère à la veille de la Révolution. Alors, je m'excuse de cette litanie, mais je pense qu'il faut que je la lise. Qu'est-ce que les Juifs avaient le droit de ne pas faire ? Les Juifs ne peuvent s'établir dans un village sans la permission du Seigneur ou des habitants. Ils ne sont pas autorisés à habiter les grandes villes comme Strasbourg, Colmar ou Mulhouse, où ils ne peuvent venir que les jours de marché pour vendre des chevaux, du bétail et des objets de peu de valeur, mais ils doivent partir avant la nuit. Ils n'ont pas le droit de cultiver la terre, sauf pour leur propre vigne, et n'ont pas le droit d'acheter des immeubles, sauf pour les vendre ou pour y habiter. Ils ne peuvent pas ouvrir des boutiques, sauf des boucheries et des épiceries. Ils ne peuvent pas vendre des habits neufs. Ils ne peuvent devenir ni artisans, ni ouvriers, ni avocats, ni médecins, mais seulement épiciers, bouchers, barbiers et aubergistes. Ils n'ont pas le droit de loger sous le même toit qu'un chrétien, d'employer des serviteurs non-juifs, de discuter avec des chrétiens de sujets religieux. Ils ont le droit de se réunir pour prier, mais pas de construire des synagogues ayant vue sur la rue. Ils doivent payer des péages pour circuler sur les routes et entrer dans les villes. Et enfin, j'arrête là, bien sûr, cette liste de contraintes, ils ne peuvent comparaître en justice pour défendre leurs droits qu'après avoir prêté serment devant un rabbin. Et cette contrainte durera en France, après la Révolution, pour tout le monde, sauf à Nîmes, jusqu'en 1846. Et donc bien après la Révolution. Je veux dire uniquement celle du serment, bien sûr, pas les autres interdictions. Alors malgré la dureté de cette vie quotidienne, dont on voit qu'elle ne devait pas être facile tous les jours, les Juifs sont devenus de plus en plus nombreux en Alsace parce qu'ils rendaient de grands services aux armées de Louis XIV et de Louis XV en assurant leurs besoins en chevaux dont ils avaient pratiquement le monopole. Ils avaient un rôle d'intermédiaire dans le commerce du bétail, des céréales, du fourrage, du sel et du fer de Lorraine. Et ils prêtaient de l'argent aux paysans pour aider à financer les prochaines récoltes. Les métiers les plus répandus étaient ceux de marchand de bestiaux, et marchand de bestiaux est un métier qui est encore visible, plus en Alsace mais en Lorraine, tripier, brocanteur et surtout, à l'époque, colporteur, un métier qui subsistera très avant dans le XIXe siècle. Un petit nombre d'entre eux purent néanmoins arriver à une vie un peu plus bourgeoise, mais la grande majorité des Juifs d'Alsace vivaient pauvrement dans les villages, une existence rythmée par le souci d'assurer le pain du lendemain, de veiller à l'éducation des enfants et de célébrer dignement les fêtes religieuses. Alors, grâce à la généalogie que vous avez fait dresser, monsieur Ginsburger, j'en connais un peu plus sur les ancêtres des Ginsburger en Alsace. Alors, je ne vous apprendrai rien, bien sûr, comme on en a parlé tout à l'heure, vous en savez bien plus que moi, mais du grand-père d'Ernest Ginsburger, Emmanuel dit Maram Ginsburger, on peut remonter jusqu'à la fin du XVIIe siècle, jusqu'à Moïse Benjamin Ginsburger, donc on est dans la branche Ginsburger, qui s'est installée en Alsace vers le milieu du règne de Louis XIV. Par contre, par la branche maternelle de la mère d'Ernest Ginsburger, Jeannette Bonneff, on peut remonter jusqu'au XVe siècle, parce qu'elle descend d'une ligne de rabbins célèbres qui s'appelle les Katznellenbogen, c'est un surnom bien sûr, et qui furent rabbins depuis le Moyen-Âge en France, en Italie, en Allemagne, en Bohême, en Pologne, en Ukraine et dans l'ancienne Lituanie qui forme actuellement la Biélorussie. Et la réputation de ces rabbins fameux pour leur connaissance talmudique était arrivée en Alsace de sorte que les Juifs de la région de Haguenau, qui est dans le nord de l'Alsace, choisir un rabbin, ils voulaient lire un rabbin très savant, et ils ont choisi un descendant de cette illustre famille appelée Lazar Moïse Katznellenbogen, qui était né en Ukraine actuelle. Son fils Hirsch Moïse lui succéda comme rabbin à Haguenau jusqu'après la Révolution, sous le Premier Empire, et sa fille Sarah épousa un Alsacien qui s'appelait Philippe Lingmann Bloch. Et de cette union furent les ancêtres directs d'Ernest Ginsburger, dont le père émigra en Lorraine parce qu'il ne voulait pas, avec sa famille, devenir allemand après l'annexion de l'Alsace à l'Allemagne en 1871. Et donc, comme vous l'avez rappelé, c'est à Héricourt que naquit Ernest Ginsburger quelques années après, en 1876. Alors, Ernest Ginsburger est toujours resté en liaison avec sa famille alsacienne et avec son cousin Moïse, qui était né à Hastadt, un petit village de la Haute-Alsace où s'étaient installés les premiers Ginsburger qui avaient émigré en Alsace. Tous deux, Ernest et Moïse Ginsburger, font partie de ce qu'on appelle la deuxième génération de l'émancipation. Ils étaient nés au milieu ou à la fin du XIXe siècle. Tous deux furent éduqués dans des familles où l'on respectait une tradition religieuse très stricte. Tous deux firent de solides études classiques. Tous deux choisirent la profession de rabbin et devinrent des érudits spécialistes de l'histoire juive. Tous deux publièrent de nombreux articles de grande qualité, mais malgré ces similitudes, on ne saurait imaginer des carrières aussi dissemblables. Alors, Ernest Ginsburger fit ses études au séminaire, comme vous l'avez rappelé, à Paris, où l'enseignement est longtemps resté très traditionnaliste, très rigoureux, mais qui commençait à s'ouvrir aux méthodes de la critique et aux disciplines de ce qu'on a appelé en Allemagne la Wissenschaft des Judentums, la science du judaïsme, et qui est en France, qui est arrivée beaucoup plus tard, à la fin des années du XIXe siècle sous le nom de études juives. Et cette nouvelle science devait prouver que, loin d'être repliés sur eux-mêmes, les Juifs avaient formé une civilisation originale, bien sûr, mais au milieu des différents peuples auxquels ils se sont adaptés, tout en conservant leur foi et leurs coutumes. Et ces nouvelles études devaient prouver que les Juifs avaient une civilisation propre et qu'ils n'étaient pas aussi incultes que prétendaient leurs ennemis. On est à cette époque, en pleine époque de l'antisémitisme renaissant et à la veille de l'affaire Dreyfus. La Société des études juives et la Revue des études juives ont contribué à faire connaître cette nouvelle démarche critique de l'histoire juive. Et bien entendu, nous retrouvons Ernest et Moïse Ginsburger dans cette revue où ils ont publié de nombreux articles. Ernest Ginsburger est un exemple de cette génération qui a concilié l'esprit des études juives tout en proposant d'adapter le droit rabbinique à la vie moderne. Ainsi, en 1934, il fut sévèrement critiqué dans un journal juif de Strasbourg pour des positions jugées trop libérales sur les divorces. Il est vrai qu'il a toujours existé chez les juifs alsaciens une tendance à penser qu'ils étaient les seuls à pratiquer le vrai judaïsme de la bonne manière. Ernest Ginsburger fut un rabbin inscrit dans son siècle, actif comme aumônier, militaire, comme intellectuel engagé, aussi bien contre le nazisme que contre au moment de la guerre d'Espagne pour aider les républicains. Il s'est intéressé, comme vous l'avez rappelé, madame, à l'histoire des juifs dans toutes les régions où il a exercé son ministère. Il a publié des manuels de grammaire, des commentaires et la publication de son Histoire des Juifs de Bayonne illustre et couronne aujourd'hui son activité d'historien. Moïse Ginsburger a eu une vie professionnelle très différente. Il est né en 1865 dans une Alsace française qui est devenue allemande. Il a reçu son premier diplôme de grand rabbin en Alsace, mais il décida de poursuivre des études d'orientaliste à l'université, dans une université allemande, parce que s'il avait émigré en France pour avoir un diplôme français, il n'aurait jamais pu revenir en Alsace et exercer des fonctions de rabbin. Il en était de même d'ailleurs pour Ernest, qui ne pouvait plus revenir en Alsace, les diplômes français n'ayant aucune valeur dans l'Alsace allemande. Alors le gouvernement allemand, pour essayer de contrer cette difficulté, avait créé des bourses d'études pour inciter les étudiants juifs alsaciens à faire leurs études en Allemagne plutôt qu'en France. Et Moïse choisit d'aller à Berlin, dans un séminaire rabbinique de réputation internationale, où l'enseignement était encore rigoureusement traditionnaliste. L'ambiance berlinoise était assez familiale. Il paraît que le directeur du séminaire alimentait lui-même la cheminée tout en parlant en commentant le Talmud. Mais à Berlin, l'enseignement était quand même teinté d'un fort pangermanisme. Alors, bien sûr, ils espéraient inciter les candidats à ne pas retourner à l'Alsace, ou tout au moins à rester, à inciter ensuite les Alsaciens, les Juifs alsaciens, à devenir un petit peu plus pro-allemand qu'ils ne l'étaient en réalité. Heureusement, cette influence germanique n'a eu aucun effet sur les jeunes rabbins revenus en Alsace, et comme tous les Juifs alsaciens et lorrains, ils sont restés fidèles à la France durant les 47 années de l'annexion, d'une génération à l'autre, évidemment. Alors, une petite incidente à propos de Moïse Ginsburger, qui ne concerne pas réellement l'histoire d'Alsace. À Berlin, Moïse Ginsburger est devenu un spécialiste de l'araméen et du mandéen. Ce sont des langues sémitiques qui étaient parlées dans l'Antiquité, à partir de l'Empire perse, et qui était encore couramment parlé en Irak et en Syrie jusqu'à la guerre actuelle. Maintenant, avec les mouvements de population, ils sont partis. Le mandéen et l'araméen l'araméen reste encore un peu, mais le mandéen a pratiquement disparu de ces contrées. les gens sont partis, ou ils ont été massacrés. Moïse Ginsburg a publié plusieurs éditions critiques des manuscrits du Targum, un texte liturgique qui est une sorte de paraphrase de la Bible, qui est écrite en araméen, et qu'on avait décidé de lire à la synagogue après la lecture de la loi, parce que lorsque les Israélites sont revenus de Perse avec l'autorisation du grand roi de l'empereur de Perse, Cyrus, ils ne savaient plus l'hébreu. Ils avaient vécu plusieurs siècles en Babylonie et en Perse, et ils ne parlaient plus que l'araméen. Donc, si on voulait leur expliquer la Bible, il fallait une explication dans cette langue. Et puis, c'est resté, parce qu'effectivement, l'hébreu est resté une langue liturgique, et les juifs ont continué à parler la langue du pays lorsqu'ils s'y installaient. Alors, c'est important de savoir que le Targum est le texte par lequel Jésus a reçu son instruction religieuse, puisqu'il parlait l'araméen. Et donc, les éditions de Moïse Ginsburger sur le Targum intéressent aussi bien les juifs que les chrétiens, et même les musulmans. Il n'est donc pas étonnant que les éditions critiques de Moïse Ginsburger soient encore très utilisées de nos jours, et connaissent de nombreuses rééditions en allemand, en anglais, en araméen, en hébreu et en arabe, ce qui m'a beaucoup surpris, mais si vous cherchez sur un moteur de recherche sur votre ordinateur, vous trouverez l'explication, car aux États-Unis, on a réédité pratiquement tous les ans les éditions du Talmud de Moïse Ginsburger. Alors, contrairement à son cousin, Moïse Ginsburger fut un rabbin des villes. Sa carrière fut, contrairement à celle de son cousin Ernest, qui fut un rabbin des villes, Moïse fut un rabbin de campagne. Sauf pendant l'intervalle de la Deuxième Guerre mondiale, lorsqu'il dut se réfugier à Clermont-Ferrand, sa carrière se passa uniquement en Alsace, dans des petites villes, à Sulz, puis à Guebwiller, où il n'habitait d'ailleurs pas l'ensemble de la semaine où il venait le Shabbat. Il ne fit pas de politique, contrairement à son fils Roger, un architecte, militant puis dirigeant communiste, grand résistant, qui fut député de l'Allier pendant 30 ans sous le nom de Pierre Villon, et les gens de notre génération se souviennent qu'on parlait assez souvent de lui dans la presse. Moïse Ginsburger sut tirer parti de son temps libre pour accomplir une multitude de tâches différentes. Enseignant, bibliothécaire, déchiffreur de manuscrits, c'est lui qui a classé les manuscrits sémitiques de la bibliothèque universitaire de Strasbourg, archiviste, journaliste, conférencier, éditeur, collectionneur, et généalogiste, comme nous en avons parlé ce matin dans son article sur les origines de la famille Ginsburger. Et comme historien, il a passé de longues journées dans les archives départementales et municipales alsaciennes pour déchiffrer et copier à la main l'écriture gothique difficile des documents rédigés par les chancelleries concernant les Juifs d'Alsace. Il a créé une société, la Société d'Histoire des Israélites d'Alsace et de Lorraine, qui existe encore aujourd'hui, pour recueillir des archives juives et intéresser le grand public à l'histoire de ses ancêtres. Cette société s'opposa avec succès au transfert à Berlin des archives des communautés juives. Les Prussiens avaient décidé de créer un dépôt central d'archives juives des juifs allemands, les Alsaciens s'y sont opposés, la Silésie aussi, et maintenant les archives sont en Israël, dans un dépôt central où ils ont récupéré pratiquement tout l'ensemble de ces archives. Mais ils n'ont pas les Alsaciens, et les Alsaciens ne les ont pas entièrement non plus, parce que une partie de ces collections alsaciennes ont été volées en 1949 par un juif américain, et qui les a vendus dans des bibliothèques juives américaines et israéliennes. Et maintenant, quand on veut faire l'histoire des Juifs de France, il faut aller aux États-Unis. Les curiosités de Moïse Ginsburger ont porté sur un grand nombre de sujets. La généalogie, les noms de famille, les synagogues, les cimetières, la médecine, etc. Et il a consacré plusieurs articles aux rabbins alsaciens, et qui avait une grande autorité dans le domaine civil, fiscal et judiciaire, Contrairement aux juifs portugais, dont le rabbinat n'avait qu'une importance tout à fait relative, et comme on l'a rappelé au moment où Napoléon a fait promulguer les décrets créant les consistoires, au Portugal, chez les juifs portugais, les rabbins procédaient au mariage, assuraient le culte et l'éducation des enfants. Et en Alsace, c'est pas du tout pareil. Les rabbins étaient des seigneurs très puissants et aussi de grands financiers, les deux allant à l'époque d'eux-mêmes. En plus, ils se disputaient souvent entre eux. Il y avait cinq ou six rabbins en Alsace, et ils se disputaient souvent entre eux. Et Ginsburger s'est fait un malin plaisir de retracer dans la revue des études juives les chamailleries entre lui, les Parnassim et les juifs d'Alsace. Et je ne sais pas si ça a tellement changé maintenant. Enfin, j'espère que, quand même, les luttes ne sont pas aussi fratricides. Il a écrit avec Ernest Ginsburger, son cousin, un article sur les Juifs d'Alsace pendant la Terreur, tout à fait important, et il a contribué par ses écrits continuels jusqu'en 1949, l'année de sa mort, il a aidé les Juifs alsaciens à garder le souvenir d'une France émancipatrice, tout en permettant aux Juifs alsaciens de reconstituer un passé dont, en vrai dire, ils n'avaient pas gardé un bon souvenir en raison des difficultés de l'existence que j'ai exposées tout à l'heure. Et ils s'étaient empressés de l'oublier parce qu'ils n'aimaient pas se rappeler ce passé. Et comme la Révolution française y avait mis fin, on préférait se rappeler les bienfaits de la France, même s'il y a eu de gros problèmes ensuite, que de se rappeler la puissance des seigneurs alsaciens et la législation germanique qu'ils avaient subi pendant 3 ou 4 siècles. Ernest et Moïse Ginsburger furent de parfaits exemples du franco-judaïsme. Ça, c'est une expression inventée par les historiens américains qui ont quelquefois, et même toujours, du mal à comprendre la façon dont les Juifs français ont forgé les lendemains de leur émancipation. Et ils ne comprennent pas que les Juifs français ont forgé leur identité d'une manière autoritaire, en raison du système consistorial, qu'ils ignorent bien sûr, mais en s'intégrant sans perdre leur identité au style de vie et à la culture française. Et c'est parce que, évidemment, nous sommes tributaires en France des études en Amérique, forcément, puisqu'ils ont une grande partie des archives des communautés juives. Mais les historiens français veillent au grain. En se consacrant à l'histoire des Juifs dans chacun des domaines qu'ils avaient choisis, Ernest et Moïse Ginsburger ne furent pas seulement des gardiens de la foi juive, comme c'était leur première vocation. Ils ont fidèlement appliqué dans leurs écrits les méthodes de la science du judaïsme, ce qui permet de les classer aujourd'hui parmi les plus illustres représentants des études juives. Je vous remercie.
Vous venez d'entendre l'intervention de Georges Veil intitulée « Des Juifs d'Alsace, deux figures intellectuelles, Moïse et Ernest Ginsburger ». Georges Veil est ancien conservateur de la Bibliothèque des Archives de l'Alliance Israélite Universelle et ancien président de la Société des études juives. La semaine prochaine, sur notre antenne, même jour, même heure, vous pourrez entendre la seconde partie de cet hommage au grand rabbin Ernest Ginsburger, qui a été rabbin de Bayonne de 1930 à 1943, date de sa mort dans le camp d'Auschwitz. La semaine prochaine, vous entendrez l'intervention de Jean Plasson, historien et guide conférencier entre tradition et assimilation, le rabbinat sous tension du rabbin Ginsburger à Genève. Hommage au grand rabbin Ernest Ginsburger, 1876-1943. Grand rabbin de Genève, puis grand rabbin de Belgique, Ernest Ginsburger sera rabbin de Bayonne de 1930 à 1943. figure singulière, Ernest Gainsburger est un homme d'action, prédicateur apprécié, historien, juriste, journaliste, conférencier. Il a laissé une abondante littérature et ses ouvrages d'histoire sur les Juifs du Sud-Ouest font toujours autorité. Homme engagé, résistant, il est mort à Auschwitz le 11 février 1943, victime de la barbarie nazie et du régime de Vichy. Un hommage lui a été rendu par la ville de Bayonne au Musée basque de l'histoire de Bayonne le 7 mars 2018 à l'occasion du 75e anniversaire de sa mort et à l'occasion de la publication de son manuscrit inédit « Les Juifs de Bayonne, des origines à la Révolution française », manuscrit publié par les éditions Atlantica, précédé de l'hommage d'Anne Oukemanou intitulé « Ernest Gainsburger, un homme ardent et engagé ».